RFI Musique.
De ce que l'on peut faire en gastronomie, ça met en avant de jeunes talents, ça nous motive encore plus d'aller chercher encore plus loin. C'est sans cesse un travail, une remise en question. Aujourd'hui, on a gravi une étape. Bien entendu, on a de belles ambitions et on a célébré ça, bien sûr, avec toutes les équipes, avec grand plaisir.
Alors vous, Marc Vérat, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y teniez, hein, à votre troisième étoile. Au mois de décembre, vous disiez, si j'ai pas trois étoiles, je rends les deux autres.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'était une vraie menace. Vous l'auriez fait vraiment?
C'est pas une menace. Le guide Michelin est tellement important pour les clients et pour l'équipe que moi, j'ai connu tellement d'avaries dans ma vie que j'avais décidé à un moment donné, si je n'ai pas la troisième étoile, j'arrête. Mais je l'aurais fait. Hein. Vous savez, je pense qu'il y a le Michelin ne trahit jamais personne. J'ai une référence absolue du Michelin depuis des années, et je pense que c'est la Bible.
Pourquoi? Pourquoi cette révérence?
C'est pas une révérence, simplement, c'est que moi j'admire le Michelin, vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent comme des petites souris, nous voir un petit peu au restaurant, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils nous mettent l'adrénaline, ils nous confortent dans le fait de faire le maximum des belles choses. Et si on les avait pas, moi, je suis persuadé qu'on serait moins bon.
Alors, ils viennent nous voir, disait Marc Vérat à l'instant. Ils, ce sont les fameux inspecteurs du guide Michelin. Alors, on a tous en tête Michael Ellis, le film avec De Funès, hein, le film de Claude Zidi, De Funès et Coluche, La Loue la Cuisse. Ça se passe pas tout à fait comme ça, quand même, dans la réalité.
Non, pas tout à fait. Les inspecteurs rarement boivent du lot, les pots de fleurs sur la table, et ils ne se disent pas en femme comme faisait Louis de Funès dans La Loue la Cuisse.
Mais ils viennent quand même anonymement.
Absolument.
C'est-à-dire que le chef ne sait pas que l'inspecteur
Absolument.
Est là.
Absolument.
Il paye normalement son addition.
Absolument. L'un des modes opératoires clés d'un inspecteur, d'ailleurs, qui est un salarié Michelin 100%, qui est un expert en gastronomie aussi, qui a la capacité physiologique de goûter et de traduire ce qui se passe sur le palais par écrit. Donc ça, c'est très important.
Ça veut dire avoir une bouche, avoir un nez aussi, avoir des yeux, parce qu'il y a aussi la dimension
absolument,
visuelle. C'est l'ensemble des sens qui sont mobilisés.
Mais surtout avoir les papilles, le bon, c'est physiologique, c'est prouvé, c'est scientifique. Il faut avoir la bonne quantité des papilles sur le bon endroit sur la langue. Donc
d'accord.
C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment physique. C'est comme qu'on appelle les nez dans la parfumerie, hein, des gens qui ont une capacité olfactoire et gustative extrêmement développée. Après, les inspecteurs, c'est très important. Nous sommes convaincus que pour être vraiment indépendante et avoir une vision de l'expérience de le client lambda, enfin, nos lecteurs, notre audience, il faut que l'inspecteur a une expérience comme n'importe quel autre client. Donc c'est pour ça que l'inspecteur est anonyme et c'est pour ça que l'inspecteur paye toujours son addition.
Et une fois qu'il a payé, là par contre il peut sortir de l'ombre, il peut tomber le masque.
Oui, il peut venir le lendemain aussi. Hein.
Absolument, oui, ce qui se passe de temps en temps. Voilà, on a des visites, exactement, on a des visites. Les inspecteurs, en général, ils ont un ou deux départements par an, donc pour tourner. Donc quand ils terminent leur tournée dans un département, les derniers quelques jours, ils se présentent dans quelques restaurants pour avoir un dialogue avec les professionnels, pour avoir une transparence, avant avant de quitter le département et pas, ils ne retournent pas avant entre 7 et 10 ans. Donc, c'est comme ça, ils peuvent garantir de garder l'anonymat.
Oui, ils visitent la cuisine, ils ont la possibilité d'aller dans les réserves, de faire sa petite enquête.
Absolument. Notre travail, c'est un travail surtout sur la qualité des assiettes, bien sûr. Donc, on n'est pas là pour les inspections d'hygiène ou d'autres inspections qui sont le travail de l'État ou d'autres organismes, mais on est là pour regarder, pour parler un peu de voir ce qui se passe. Je sais que Christopher a eu les visites, et si Marc, depuis 30 ans, au moins plus de 50 ans en cuisine, mais 30 ans de 3 étoiles, il a été visité maintes fois par les inspecteurs, et ça fait vraiment partie de leur travail.
Oui, et donc il y a vraiment un vrai dialogue, Marc Vera, entre les inspecteurs du guide et vous.
Il y a aussi une distance. J'ai toujours eu beaucoup de distance avec le Michelin, parce que ce sont des inspecteurs. C'est eux qui nous notent.
Oui, ça fait peur le mot inspecteur.
Ah, mais tant mieux. Mais nous, on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'eux. On serait moins bons si on les avait pas.
Alors, Monsieur H, vous n'êtes pas d'accord? Ils nous mettent la pression.
Oui, alors, quand vous avez appris qu'un inspecteur du Michelin est passé chez vous, Christopher H, comment est-ce que vous réussissez? Commence à faire son apparition.
Non, ils se sont présentés après leur dîner. J'étais encore en plein service. Voilà, ils ont bien entendu souhaité visiter la cuisine. Ils étaient très courtois. Après, c'est normal. Il y a rien qui doit transparaître. Ils sont venus voir l'équipe. Regarder la cuisine
Il y a un côté au Michelin qui est formidable. Il y a un côté secret, très humble du côté du Michelin. On ne sait rien. Alors cette année, ils ont battu tous les records.
Oui.
Je peux vous le dire.
Oui, parce que jusqu'au bout, personne n'a rien
année,
su.
Cette année, je peux vous dire, monsieur Ali, je vous félicite. Parce qu'habituellement, on a toujours un coup de fil 3 ou 4 jours avant. Et ça se divulgue. Oui. Et les médias s'en emparent. Et cette année, ça a été les Oscars.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Comment est-ce qu'on décide justement de donner ou pas cette fameuse nouvelle étoile ou cette étoile supplémentaire à un chef une fois que les inspections sont faites, mais que les listes, comment ça se passe?
Dans tous les pays où on les présente, le guide Michelin est présent aujourd'hui dans 30 pays différents. Ça peut être un guide pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ou d'autres pays en Europe. Ça peut être un guide ville comme New York, Chicago, San Francisco, Tokyo, Osaka, Kyoto, au Japon, Singapour, Séoul, ainsi de suite. Ou un chapitre dans ce qu'on appelle le Main Cities of Europe, où par exemple on a un petit chapitre sur Prague, sur Varsovie ou sur Budapest. Mmh. Donc ça c'est un peu le présence du Michelin, mais donc, pour chaque décision, ça se passe dans ce qu'on appelle la séance étoile. Et la séance étoile, ça se passe une ou deux fois par an. Moi je vais avec le patron de pays, donc on est organisé comme n'importe quelle multinationale, donc chaque pays j'ai un patron, un inspecteur patron. Après il y a des inspecteurs seniors, des inspecteurs confirmer les inspecteurs juniors, on se met tous dans un sous-sol quelque part où on ferme les portes pendant 3 jours et on décortique les dossiers un par un. On examine, on a ce qu'on appelle les essais des tables, c'est les fiches techniques qui sont très détaillées, plusieurs pages sur absolument tous les détails des 5 critères repas.
Quels sont-ils
D'abord, on regarde les ingrédients. Il faut que les ingrédients soient absolument irréprochables, les fraîcheurs, les textures, l'odeur des ingrédients, c'est très important. Après, on regarde la maîtrise des cuissons. La maîtrise des cuissons, c'est quelque chose qui est probablement le plus difficile parce que si on regarde un morceau de poisson, par exemple un bar ou un turbo ou un lieu ou un cabillaud, la fenêtre de perfection de cuisson, c'est peut-être 30 secondes.
Donc ça se joue à rien du tout.
Mais c'est pas forcément quelque chose qui est lisible pour le client lambda. Il faut être vraiment un expert pour connaître cette perfection de cuisson.
D'accord.
Après, on regarde l'équilibre et l'harmonie dans les saveurs. Est-ce que ça marche? Est-ce que les saveurs, est-ce que le goût, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que le sauce est assez relevé et pas trop fade ou pas trop salé? Ou est-ce que la combinaison de assaisonnement fonctionne bien ou pas? Après, on regarde la régularité. Dans la carte, par exemple, si c'est entrée, plat, dessert, viande, poisson, volaille, fruits, légumes, dessert, est-ce que c'est la même qualité? Et après, régularité dans le temps, que ça soit mois de février, juin ou novembre, et on visite plusieurs fois l'année, est-ce que cette régularité est là? Et finalement, c'est le rapport qui a été pris. Donc, c'est les critères appliquée par les inspecteurs.
Et donc, il faut l'unanimité au sein de ces séances étoiles-là pour que le chef soit récompensé.
Absolument. En fait, il faut, c'est toujours une décision collégiale. C'est jamais un seul inspecteur qui prend la décision. Donc, si, imaginons, et ça arrive assez souvent d'ailleurs, qu'on a deux papiers. Par exemple, c'est, imaginons, pour Christopher H., on a deux inspecteurs qui sont dans l'écran. Il y a un qui disent j'ai super bien mangé, on regarde tout l'essai des tables et on voit techniquement, on a bien trouvé une étoile dans tous les plats,
oui.
Ou étoile plus ou petite étoile, mais l'inspecteur arrive à la conclusion d'étoile. Mais si on envoie un autre inspecteur et l'autre inspecteur n'est pas convaincu, il n'a pas trouvé le même qualité d'étoile, à ce moment-là, on dit, écoutez, on ne peut pas dire oui, donc on envoie un troisième, voire un quatrième inspecteur après pour confirmer ou pas l'octroi de l'étoile, avant qu'on ait vraiment sûr que cette cuisine n'est pas encore, enfin, cet établissement n'est pas encore prêt, n'est pas encore mûr pour l'étoile.
Alors, quand l'étoile apparaît, évidemment, c'est un événement très très fort, hein, pour la vie du restaurant et pour son équipe. Notre reporter Marie Jiquel est donc allée ce matin à la rencontre de votre équipe, de votre brigade à l'écrin au crayon. Christopher H., reportage.
Il faut traverser un labyrinthe en carrelage blanc pour atteindre les cuisines qui servent notamment l'écrin au sous-sol de l'hôtel de Crillon. Peu de voix qui haussent le ton, beaucoup de concentration. La brigade qui compte 70 cuisiniers s'active avec précision. Ils sont tous très contents, mais il n'y a pas de place au relâchement.
Oui, on est très heureux. Maintenant, il faut laisser le temps de se préparer pour l'année prochaine.
Moi, je m'en doutais de toute façon.
Ah oui, vraiment ?
Mais ils en avaient une avant, donc pour moi, c'est un peu évident qu'ils en aient une aussi.
Ça fait plaisir, c'est sûr, c'est une récompense.
On est assez soudés, et on veut vraiment que ça fonctionne, et pour le coup, ça a fonctionné parce qu'on a réussi à avoir une étoile, donc c'est quand même une grande fierté pour nous, et on va quand même continuer les efforts et se donner à fond, quoi.
On trouve le quartier du sommelier, celui de la gastronomie, celui encore de la boulangerie, ceux qui se lèvent le plus tôt, comme Gauthier.
Vous avez fait la fête un peu ?
Ah bah non, nous c'était à 4h du matin, alors...
C'est vrai que ça fait plaisir. Après, on n'attendait pas moins. C'était obligatoire pour nous d'avoir une étoile.
Pourquoi ?
On se doit, pour l'image de l'hôtel de Crillon, d'avoir quand même une étoile, c'est le minimum.
Dans ce recoin, ça sent plutôt le salé. Mathieu est le sous-chef gastronomie. Il est accompagné par son commis Martin. Donc là, c'est le jus ?
Oui, voilà. Là, on est en train de faire une petite liaison, là. On va le terminer. Voilà.
Comment on fait pour pas pleurer quand on coupe de l'oignon ?
Je dirais avoir un bon couteau. Le couteau, ça écrase et c'est une genre de vapeur qui vous pique aux yeux.
Des lunettes de plongée aussi, ce qu'on m'a dit.
Des lunettes de plongée ?
Ça marche bien aussi.
Comment est l'ambiance ici ?
Ouais, plutôt bonne. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Martin ? Ça va ?
Elle est plutôt bonne ambiance. Ouais.
De l'autre côté, alignées fièrement, des mini-sculptures colorées, des sphères orangées, des éclats de chocolat noir et même quelques pétales de rose comestibles. Jonathan, lui, est le sous-chef pâtisserie.
On est en train de finir la fournée de petits gâteaux, du chocolat, de la poire, de l'ananas, sur des produits de saison.
Au centre de toutes ces salles où rien ne dépasse, une loge, celle du chef Christopher H. Ses équipes me l'ont confié. Il est très présent pour elle.
Alors, on est où, là ? C'est votre cabine de pilotage ?
Exactement, là où tout se passe, où je dois avoir l'œil partout.
Actuellement en train d'ouvrir des coquilles Saint-Jacques, le chef ira bientôt déjeuner avec sa brigade dans un autre recoin de ce dédale au 1100 heures.
Bah, le midi, non, on a un restaurant d'entreprise. Voilà, on a des cuisiniers qui font à manger pour des cuisiniers.
Alors, reportage de Marie Jiquel au restaurant L'Écrin à l'hôtel de Crillon. Alors, Christopher H., la haute gastronomie, on le sent bien, c'est un vrai travail d'équipe. Et pour durer, il faut vraiment que tous les maillons de la chaîne soient en permanence au top niveau, quoi.
Exactement. Alors, comme vous avez pu l'entendre à l'hôtel de Crillon, on a plusieurs restaurants. En tout, on a 7 points de restauration. Donc, c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de faire un restaurant gastronomique uniquement ouvert 5 jours par semaine pour être vraiment présent et être focalisé sur celui-ci. Car derrière, il y a la brasserie d'Aumont qui est ouverte 7 jours sur 7, déjeuner, petit déjeuner, dîner, pardon. Les salons historiques avec la capacité d'accueillir 140 convives pour du banquet. Le room service, un bar, un jardin d'hiver. Donc au total, j'ai une brigade de pas loin de 70 cuisiniers et pâtissiers. Donc voilà, je suis le chef de tout l'hôtel, mais en même temps aussi du restaurant gastronomique. Donc il faut, voilà, c'était important de bien organisé, oui. Ça fait.
Bon, on sent qu'il y a quand même une pression énorme quand même dans votre métier, Marc Vera. Vous parliez évidemment de l'importance tout à l'heure des guides en général et du Michelin en particulier.
Oui, vous savez, moi j'ai demandé à monsieur le directeur qui est à côté de nous il y a 2 ans et demi de ne plus nous noter. Oui. J'ai connu le vide, vous savez, absolu. J'ai eu un accident terrible, 2 incendies. J'étais dépressif, je ne veux plus être noté. Et je dis à tous les jeunes, faites très attention. J'étais orphelin du guide Michelin. Et
orphelin de l'adrénaline, disiez-vous, dans une interview récente. Il y a une sorte d'addiction, alors, au guide.
Mais bien sûr, j'ai rappelé le guide en disant, je veux repartir dans la course aux étoiles.
Oui, mais alors la course aux étoiles, c'est très bien, mais il peut y avoir aussi justement des vraies tensions, des catastrophes humaines. On se souvient du suicide de Bernard Loiseau, Michael Ellis, ça remonte, il y a 15 ans.
Non, mais, attendez,
mais tout de même, il y en a qui demandent...
Bernard, c'était mon meilleur ami.
Oui.
Alors, je pense
c'est plus compliqué que ça. Vous
avez dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
D'accord.
C'est pas la peine de ressasser tout ça.
D'accord.
Bernard a pris sa décision. Moi, c'était mon meilleur ami. On se téléphonait tous les jours. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ça.
Bon, mais en tout cas, il y en a qui refusent justement cette pression. Par exemple, quand Sébastien Brasse rend ses étoiles en septembre dernier, le guide obtempère d'ailleurs, enfin obtempère, le guide dit OK, très bien, pas de problème. Mais ça vous inspire quoi, Michael Ellis? Ce renoncement.
Non, le guide Michelin, l'étoile, c'est un point de vue, c'est une opinion. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut pas le rendre. C'est comme une critique de l'art. Un critique de l'art peut dire, moi, je pense que ce tableau est très beau. L'artiste peut pas dire, non, je vous rende votre opinion. Ça marche pas comme ça. On peut pas rendre les étoiles. Souvent, les chefs ferment le restaurant et ils décident qu'ils rendent l'étoile. Mais c'est pas vrai. Ils rendent pas, ils ferment le restaurant. S'ils disent qu'ils rendent les étoiles, c'est pour faire parler de eux, je pense. Hein. Donc,
qu'ils vont la perdre.
Oui. Voilà, ça c'est notre débat. Mais dans le cas particulier de Bras, c'est une décision familiale. Il ne faut pas oublier que c'est le père de Sébastien, Michel Bras, qui a gagné ses 3 étoiles en 1999. D'accord. Sébastien a repris le restaurant Les Suquets il y a 10 ans, donc en 2008. Ils ont décidé pour des raisons familiales qu'ils voulaient sortir du guide. C'était pas une décision facile. Donc nous, on a décidé, et c'est la première fois qu'on a pris cette décision, que si la famille veut, pour les raisons personnelles, quitter le guide Michelin, on va la sortir du guide. Mais c'est cas par cas. Et nous, on fait le guide pour nos lecteurs, pour notre audience, pas pour les chefs. Donc, dans l'avenir, mais je peux vous dire que dans mon expérience, je suis dans mon 7e année, il y a 99,99% des chefs qui veulent plus d'étoiles et pas un moins. Et je pense que Marc Vera est un bon témoin de cette envie.
Vous savez, je ne vais pas vous couper la parole, monsieur le directeur, mais je pense que on a beaucoup plus besoin du Michelin dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
Pour faire venir du monde?
Mais bien sûr, quand vous êtes au sommet... Attendez, moi je suis au sommet d'une pointe à 1850 mètres d'altitude. Mais si on n'avait pas les références du Michelin, on aurait 50% de clients au moins.
Sans Michelin, vous ne remplissez pas?
Mais c'est évident. Non mais attendez, tout le monde sait bien que d'une 2e à une 3e étoile Michelin, vous multipliez le chiffre d'affaires par 2... Et vous multipliez le personnel par 2.
Oui, mais il faut investir aussi en même temps.
Mais
parce
non,
qu'il y a aussi un piège.
C'est une erreur monumentale. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pas plus investi hier que j'ai investi aujourd'hui pour 2 et 3 étoiles. Et on a eu 3 étoules.
Parce que le problème, c'est que quand on a 2 ou 3 étoiles, on risque d'en perdre. Donc, faut toujours se montrer à la hauteur après.
Oui, mais vous risquez toujours de perdre tôt, dans la vie. Simplement, il faut être au niveau et avoir la rigueur. Non, simplement, ce que je voulais juste dire une chose. J'espère qu'un jour, le directeur du Michelin et le Michelin en général prendront ça en compte. Vous êtes un type extraordinaire. Mais vous savez quelle est la différence entre vous et nous? C'est que nous, on fait le chèque à la fin du mois et vous le recevez. Il y a 2 critères aujourd'hui. C'est comme le critère public et privé. Il y a des gens qui mettent leur nom, mais comme moi. Et puis il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus responsables et qui font le chèque. Avec tout le respect que je vous dois, tout le talent que je vous dois, on n'est pas dans la même espèce.
Alors, Christopher,
c'est une très bonne remarque.
Ah, bien sûr, c'est une bonne remarque.
Après, j'ai aussi d'autres soucis qui sont plusieurs restaurants. J'ai pas juste un restaurant. Je le disais, j'ai 7 points de restauration. Donc là aussi, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais là encore, j'ai une superbe équipe qui m'entoure. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance.
Mais oui,
d'être mon propre chef et d'avoir mon propre restaurant.
C'est tout le mal que je souhaite. Des chefs dans des hôtels,
il en faut. J'en fais partie.
Mais vous faites partie du domaine public et moi, je fais partie du domaine privé. C'est moi, je fais le chèque.
On va marquer une courte pause, messieurs, pour le flash. On va se retrouver juste après pour plonger dans vos cuisines respectives. Et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Une émission gastronomique aujourd'hui dans VMDN au surlendemain de l'annonce des heureux élus du guide Michelin France 2018. Avec nous, le directeur international des guides Michelin et deux chefs d'exception, Marc Vera, qui vient de décrocher sa troisième étoile pour la Maison des Bois à Manigot en Haute-Savoie, et Christopher H, le chef du restaurant L'Écrin à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde à Paris, qui reçoit sa première étoile 7 mois après la réouverture de l'établissement. Alors vous êtes issu du Sérail, Christopher H, puisque votre père, vous avez un père chef de restaurant. Qu'est-ce qui vous a appris?
Il m'a appris beaucoup de choses. C'est surtout ma grand-mère qui tenait une auberge à Saint-Nom-la-Bretèche, l'auberge de la Forêt. Donc c'était tous ces souvenirs de famille où j'ai été bercé tout de suite en cuisine, et ça m'a donné, en fait, je suis la quatrième génération, donc c'est vrai qu'on a, comme on dit dans la famille, on a ça dans les gènes, et qui m'a donné l'envie de devenir cuisinier et de travailler pour ça, de me perfectionner. Donc j'ai tout de suite, mon premier stage a été chez Bernard Loiseau. Ça a été la première personne qui m'a marqué. Il avait un charisme, il avait quelque chose qui était remarquable. Outre sa cuisine, c'est là où en fait je me suis dit je veux faire de la gastronomie, et puis ensuite j'ai fait mon parcours, c'est vrai, exclusivement sur Paris auprès de grands chefs,
Briffard, Sandrins, Fréchon en particulier, d'autres tout, encore. Voilà. Vous avez fait aussi le lycée Escoffier, hein, à Erani. Donc vous avez appris à la fois à l'école, dans votre famille et sur le terrain. Où apprend-on le mieux?
Le mieux, on apprend aux côtés des meilleurs.
C'est d'abord un art de la transmission, la gastronomie.
C'est ça aussi, bien entendu. Ça fait partie de nos valeurs, la transmission. Et aujourd'hui, c'est ce que je m'efforce de faire auprès de mes équipes, auprès de mes cuisiniers. Et après, ce qui est beau, c'est que on apprend tous les jours, et on continue encore aujourd'hui à apprendre. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi quand l'hôtel de Crillon a fermé. J'ai voulu encore aller me frotter auprès des meilleurs, aller faire un tour du monde. Donc j'ai pris mon guide Michelin. Et j'ai regardé tous les 3 étoiles qu'il y avait à travers le monde, et j'ai été agréablement surpris par l'accueil des chefs. J'ai été chez Thomas Keller, j'ai été chez Alex Atala, j'ai été chez des grands chefs, chez Monsieur Murata au Japon, qui m'ont accueilli et qui m'ont transmis leur philosophie, leur travail au quotidien. Et ça a été un grand enrichissement pour pouvoir revenir plus fort.
Mais vous êtes descendu, si j'ose dire, dans la hiérarchie des cuisines, parce que c'est très hiérarchisé quand même. Vous avez été commis de cuisine chez ces grands chefs à l'étranger.
Stagiaire, et puis je faisais les tâches que l'on me demandait. Oui. Donc ça a demandé.
Belle école d'humilité aussi.
Mais après, je pense que c'est une des plus grandes qualités que doit avoir un cuisinier, hormis le talent, hormis la créativité. Il y a surtout l'humilité, le fait de se remettre sans cesse en question et d'aller toujours plus loin.
Mais alors, ces nouvelles techniques, ces nouvelles saveurs, cette nouvelle façon d'associer les aliments que vous avez appris à l'étranger, justement dans ces différents pays-là, comment est-ce que le client le découvre à travers votre carte aujourd'hui à l'hôtel de Crillon?
Après, il le découvre aussi dans les cuissons, dans les techniques. Une des grandes techniques qui m'a marqué est au Japon, la méthode Ikejime. C'est une technique remarquable qui permet vraiment de retirer tout le côté nerf du poisson. Aujourd'hui, on nous apprend qu'un poisson frais est un poisson qui est raide. Et or, ils le gardent vraiment vivant, et ils mettent cette tige dans la moelle qui permet justement de retirer toute cette nervosité qui influe sur les chairs. Et en fait, la viande est très molle. Et de là, ça permet, on peut le maturer, on peut le travailler de diverses façons, pardon. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, au Japon, la qualité du poisson et ces saveurs que l'on a sont si exceptionnelles. Ils ont des produits remarquables, comme nous, on a des produits exceptionnels en France, mais il y a aussi parfois la technique. Et cette technique est une des techniques que j'essaie de justement mettre au restaurant gastronomique L'Écrin.
Mais ces influences étrangères-là n'empêchent pas que votre cuisine, votre gastronomie, soit des cuisines et des gastronomies françaises.
Tout à fait, bien entendu. Bien entendu. J'ai été notamment au Brésil chez Alex Atala manger la fourmi. Donc je me suis dit ah oui c'est un peu la mode. Mais en fait quand j'ai pris cette fourmi, je l'ai mangée. C'était exceptionnel. Ouais, j'ai eu lemongrass
et les crayons.
Mais que l'Élise connaît visiblement.
Absolument. Oui. Et donc en fait, mais quel est l'intérêt pour moi de mettre une fourmi au restaurant, ça n'a pas de sens. Mais par contre, le champignon de Paris, ce plat que j'ai voulu créer, très 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 français, très parisien, avec un produit
à vous.
Avec un produit commun. Enfin, le champignon de Paris, on peut en trouver partout, mais il y a avant tout la qualité du champignon de Paris. Travailler avec un champignoniste qui a carrière sur scène, donc on a un vrai champignon de Paris. Ensuite, il y a la recette. Ensuite, il y a l'assiette. J'ai voulu créer aussi une assiette spécialement pour ce champignon qui donc j'ai voulu vraiment faire des plats aussi des plats phares, des plats qui aujourd'hui me représentent et représentent mon style et ma philosophie.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
J'ai réservé dans un palace la suite dont j'ai rêvé. Dans mon auto, j'ai préparé mes bagages bien rangés. Ça y est, j'arrive, je vois le voiturier qui compte sa petite monnaie. Petit coup de casquette, sourire figé, ma voiture sera garée. Devant l'hôtel, si j'ai casqué cette tirelire déguisée. Pour mes bagages, voilà le wagon qui pousse son petit chariot. Avec son air Victor Hugo, la misère sur son dos, je leur ai donné. Quand je vois leur tronche en gay, quand tu prélasses dans les palaces, tu joues les hommes de classe. À coups de pied jaune, tu te débarrasses. Tu crois laisser une trace, mon gars, si t'as la classe. Faut faire péter ta liasse. Si tu joues le jeu comme à Vegas, c'est toi le roi du palace. J'arrive tel un acteur de ciné chez le concierge, très coincé. Regarde de la tête aux pieds pour voir si je suis blindé. J'en profite pour lui réserver une table très conseillée. Vers 20h30, ce sera parfait, me dit-il emprunté. Dans son regard bien aiguisé, je sens qu'il est rodé à traquer du plus gros gibier pour se faire des gros billets. Bienvenue monsieur dans notre hôtel, me dit son assistant. Armé d'un regard de gazelle, d'un œil concupiscent, je leur ai donné. Quand tu te délasses dans les palaces, tu joues les hommes de classe. À coups de pied jaune, tu te débarrasses. Tu crois laisser une trace, mon gars, si t'as.
Éric Abergel sur RFI, la chanson s'appelle Le Roi du Palace. Elle date de 2013. Éric Abergel, musicien, rocker, on l'a compris, et qui fut voiturier au crayon avant qu'il ne soit racheté par le prince saoudien Moutaï Ben Abdallah Ben Abdelaziz. C'est donc là que vous officiez, Christopher H. Vous avez succédé à Jean-François Piège en 2010. Est-ce qu'il y a pour vous une cuisine de palace?
C'est une bonne question.
Ouais. Merci. Ça va, j'espère qu'il y aura une bonne réponse à la clé.
Il est adorable, il va me rejoindre tout de suite. Là.
Alors, est-ce qu'il y a une cuisine de palace?
Les truffes et le caviar n'ont pas de prix.
Alors, Christopher H.
Non, ce qui est important, c'est d'avoir une identité, hein, de trouver son identité. Chaque chef dans un palace a son style, doit trouver son identité.
Oui, parce que la concurrence à Paris, elle est quand même très très rude.
Tout à fait. Après, ce qui était important pour nous à l'hôtel de Crillon, c'est de créer un hôtel justement accessible. Et donc à la brasserie d'Aumont, en termes de tarifs aussi, on a vraiment des prix accessibles. On a voulu rendre le côté palace, le côté hôtellerie de luxe très accessible.
Mais à l'écrin, ça coûte combien un dîner, puisque vous servez le soir?
Bien sûr. Le premier menu est en 7 temps à 195 euros.
195 euros. Alors, pour faire le lien justement avec le travail de Marc Vera, Michael Ellis, je lui demandais un peu malicieusement s'il y avait une cuisine de palace. Est-ce qu'il y a une gastronomie parisienne et une gastronomie provinciale?
en France.
Non, il y a un cuisine pour les clients. Enfin, il faut que ce soit Marc Vera, Christopher Ash ou n'importe quel autre chef. Il faut le message que le guide Michelin passe à tous les cuisiniers, mais dans le monde entier où on est présente. Il faut, monsieur le cuisinier, monsieur le chef, monsieur le restaurateur, votre objectif numéro un doit être de remplir votre restaurant avec les clients qui sont contents et qu'ils ont envie de revenir.
Oui, on cuisine pas pour le Michelin. On cuisine
surtout
pour les clients.
Pas. Vous faites fausse route qui peut cuisiner pour le Michelin. Il faut que vous cuisinez pour vos clients. Si vous le faites bien, le Michelin va vous découvrir. Or, il y a une certaine clientèle, les palaces, heureusement qu'on a les palaces en France. Nous avons en France, les palaces, c'est quelque chose, une expérience unique au monde. Les gens viennent de le monde entier pour voir ces palaces, pour avoir cette expérience de luxe. Bien sûr, une certaine prix associée avec ça, d'avoir ces repas extraordinaires. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres pays qui sera ravi d'avoir cette clientèle. D'accord? Donc, non, il faut qu'on garde ça. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça existe.
Marc Vera, moi, il y a qu'une seule chose qui m'ennuie. Oh, je suis pas d'accord avec monsieur le directeur du Michelin et mon ami monsieur H, c'est que j'ai envie de garder l'identité française. Vous comprenez? J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre le nouveau propriétaire du Crillon. Vous avez donné son nom tout à l'heure. Oui. Je n'ai rien.
Mais n'empêche que sa gastronomie est française.
Je suis sur une ouverture d'esprit sans problème. Oui. Mais comprenez-moi, j'ai besoin d'identité. C'est pas lui que je mets en cause, il a pas compris tout à l'heure. Il a un talent fou, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Le directeur du guide Michelin m'en a parlé, il y a aucun problème. J'ai besoin d'un volume identitaire et architectural, vous comprenez? Des palaces, vous savez que les chambres qui n'en finissent plus là, vous ouvrez les portes, c'est impersonnel. J'en ai marre.
Alors parlons-vous.
Alors par contre la cuisine est identitaire. Voilà. Bravo. Et là, vous faites votre travail.
On va rester sur cette thématique-là.
Le truffe vient le Périgord, le caviar vient de l'Aquitaine, le foie gras vient du Sud-Ouest.
C'est-à-dire, quand vous allez dans les provinces françaises, vous allez dans des lieux magiques, ouais, comme au centre de la France, vous avez des bâtiments en pierre, enfin, vous le savez très bien, des trois étoiles qui sont identitaires.
Oui, bien sûr.
Et là, on devient internationaux.
Alors justement, la maison des bois.
Et heureusement qu'il y a un chef. Heureusement qu'il y a des chefs comme lui, comme H, qui défendent l'identité avec le guide Michelin de la cuisine. Il faudrait que le Michelin fasse pareil pour l'hôtel.
Alors, la maison des bois, votre établissement, Marc Vera, elle est donc située en Haute-Savoie. Hein, et c'est un peu la maison de vos rêves.
C'est la maison de mes parents. C'est l'alpage de mes parents. Vous savez. Alors j'ai une projection qui est complètement différente de notre ami. C'est très marrant le Crillon, parce que vous savez que l'ancien directeur du Crillon, c'était mon maître d'hôtel.
Bon, mais parlons de la maison des bois, parce qu'après on n'aura pas le temps allez être un peu chagrin.
Alors, écoutez, non mais je suis pas chagrin, parce que j'ai pas beaucoup parlé là. Je dis simplement, il y a deux identités, et je continue ce que j'ai dit tout à l'heure. L'identité de l'homme comme lui, qui est formidable, qui a appris auprès de grands chefs, qui est allé se renseigner à l'étranger. Et moi, je n'ai pas cette perception. Et je dis bravo, bravo. Et puis, vous avez l'autre identité, celle d'un Vera. Moi, je suis un paysan.
Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous réunir tous les deux aujourd'hui dans cette émission.
Moi, je suis un paysan, je suis un bouseux.
Oui.
J'avais les livres de Paul Bocuse, cuisine du marché de Paul Bocuse.
Vous êtes un autodidacte qui a appris la cuisine à travers les livres.
Je suis le seul 3 étoiles autodidacte en France. Et j'ai appris la cuisine tout seul.
Avec Guérard et avec Bocuse qui vient de
disparaître. Oui, parce que ce sont devenus des amis plus tard, et des amis intimes. Ouais. Mais simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a deux façons d'y arriver, vous comprenez? Et moi, je reste persuadé que Monsieur H, dans son restaurant, fait un travail remarquable. Il n'a pas compris tout à l'heure ce que j'ai dit. Remarquable. Mais je dis simplement qu'on a deux identités. Et ces identités, elles continuent après. Ouais. Et ceci étant, l'avantage qu'il a... C'est que ce jeune, vous avez vu comme il est jeune, c'est un gamin. Il parle de technicité, c'est formidable. Il a appris ça auprès des autres. Et nous, on a fait quoi? Bon, on n'a pas appris tout ça.
Mais justement, vous avez des parcours différents, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler.
Et on avait plein de lacunes, mais simplement, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents avaient une ferme d'hôtes. Et Paul Bocuse disait toujours, le Marc Vera n'est pas un chef comme les autres, c'est le seul qui ait fait un apprentissage. Apprentissage de quoi? De rien. Simplement, à 20 ans, on savait tuer le cochon, faire les boudins, les ballottines, fumer le jambon, traire les vaches, fabriquer le reblochon, faire les persillés, baratter le beurre, faire le pain. C'était une vie dans la vie. Et ça, cette vie-là, c'est le plus bel, un des plus beaux apprentissages qu'on puisse avoir avec celui que notre ami H a fait.
Alors, Marc Vera, on a beaucoup parlé. Allez-y, allez-y.
Vrai, juste parce que j'ai mes beaux-parents qui font toutes les plus grandes tables et ils ont encore leurs souvenirs quand ils ont été mangés chez Marc Vera et ils m'ont dit c'est le plus grand au repas qu'ils aient fait, on oublie de le dire. Moi, la cuisine, c'est de l'émotion avant
Monsieur
tout.
H,
donc après, beau la
Monsieur
technique.
H, je crois qu'on s'est pas compris. Moi, je vais vous dire une chose dans les yeux. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et je vous aime. Mais par contre, je peux pas la fermer. C'est pas possible. Donc je vous dis les choses.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors Marc Vera, parlons donc de votre établissement qui a donc eu enfin, me direz-vous, cette troisième étoile, la Maison des Bois en Savoie. Alors c'est pas seulement un restaurant, hein, parce que bon, il y a une ferme d'hôtes, hein, avec. Alors on m'a dit, je pense que j'ai pas eu la chance d'aller le voir, malheureusement.
C'est dommage,
on m'a dit, je suis bien d'accord avec vous, mais invitez-moi.
Donc, ah bah je vous invite.
Et ben c'est formidable, on dira avec plaisir. Donc il y a une chapelle, il y a un four à pain, il y a un poulailler, il y a un rucher, il y a un bassin à poissons. L'idée c'est quoi? C'est de tout produire sur place.
Et il y a le lait de nos vaches.
Oui. Bien sûr.
Bien sûr, c'est de vivre pratiquement l'autarcie. Ce que j'ai connu avec mes parents avant. Et pourquoi? Et de là, nous avons monté une fondation. J'espère que tu vas venir, mon ami H, demain matin. On va créer un volume de jeu. On va dire aux gens, attention, l'alimentation populaire est en danger. Et grâce au Michelin, qui nous donne des notes merveilleuses, on peut faire une chaîne humaine, nous, les ambassadeurs de la gastronomie, en disant,
rapprochez-vous du
on
micro,
va s'occuper,
parce que vous
en... on va s'occuper de la cuisine de tous les jours, on va s'occuper de vous, des gens qui n'ont pas les moyens, parce que l'accessibilité à la gastronomie, vous savez, je vais vous dire une chose, quand une nation perd son identité culinaire populaire, c'est une nation qui se meurt. Il ne faut pas la perdre.
Vous êtes inquiet là-dessus, Michael Ellis?
Non, pas du tout, parce que pour la bonne et simple raison que la France est toujours a toujours été et sera toujours le pays de produits. La France est bénie avec un terroir absolument incroyable. On le voit partout, que ça soit les haricots de Paimpol ou de Tarbes, ou les lentilles du Puy, ou les endives et les pommes de terre du Nord, les pommes de terre de Normandie. On a des produits absolument exceptionnels. Et je pense à la cuisine. Je vais juste faire une remarque sur la cuisine. Je comprends ce que dit chef Vera, mais il faut les cuisines pour tout le monde. Donc, si on a une cuisine des palaces, pourquoi pas? Parce qu'il y a un marché pour ça, les gens vont venir pour ça. Mais ce qui est très intéressant chez Marc Vera, c'est qu'il est capable, ça c'est le plus difficile, de prendre des choses simples. Je pense que ce sont tartiflettes du 21e siècle.
Oui, alors ça justement, c'est très étonnant parce que c'est du tartiflette végétarienne.
Végétarienne, mais qui est une base de crémeux de pommes de terre avec une fine couche de reblochon, avec une poudre de truffes, mais qui était incroyable. Les pâtes dispersissantes. Il a su faire des, on pense que c'est des linguini de ravioli qui sèchent. Et en fait, c'est un bouillon chaud qui est versé sur les pâtes. Ils disparaissent et on a un bouillon d'une concentration de saveurs qui est absolument incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Et ça, c'est pour faire référence à ce que disait Christopher sur ses beaux-parents. C'est cette capacité de sublimer les produits simples. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et ça fait partie du génie de Marc Vera qui a créer cette idée de prendre les herbes, les plantes, les fleurs et transformer ça en des produits absolument sublimes, pleins de saveurs, c'est remarquable.
Oui. Justement, racontez-nous, Marc Vera, parce que c'est vrai que vous êtes.
Non, mais simplement, ce que je voulais dire à monsieur le directeur, mais moi j'ai bientôt fini ma carrière, donc je peux parler.
Oui.
Et tant pis si on me sanctionne. Tant pis si on me sanctionne. Mais je vais vous dire. Pour moi, une cuisine, c'est quoi? C'est ce que je reproche à Monsieur H.
Oui, oui, mais on ne sait pas, un débat contradictoire.
Mais non, mais attendez.
Hein. Ouais, vous voudrez quand même que
attendez.
Vous parliez de vous, de votre travail, de votre art, de la façon dont vous créez.
Non, mais écoutez-moi. Comment il a parlé de ses parents? Comment il a parlé de ses grands-parents?
Oui.
Comment il a parlé de son identité?
Eh ben, c'est très beau.
Monsieur, il n'est pas dans son identité où il est. Il est dans sa cuisine.
On a bien compris que vous n'êtes pas très fan des palaces.
Il est dans sa cuisine identitaire.
Quand ils sont entre les mains de capitaux étrangers.
Non, non, c'est pas ça. Il n'est pas dans l'architecture identitaire. Il a sa cuisine identitaire et son talent, et son grand talent, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai aussi mes références à Paris. C'est un talent exceptionnel. Le problème, Une maison, vous la sentez. Vous ouvrez la porte et vous dites « ça, c'est chez lui ». C'est comme une cocotte minute. Vous savez, comme une cocotte qu'on ouvre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on ouvre. Et il y a l'architecture avant la cuisine. Et il y a les yeux avant la cuisine. Et il y a le nez avant la cuisine. Et il y a les arômes avant la cuisine.
Alors,
et ben ça, c'est l'identité.
Alors, qu'est-ce qu'on sent quand on entre chez vous, Marc Véra?
C'est pour ça qu'un jour, il va venir avec moi. Il va monter son propre
restaurant. J'espère que cette émission aura peut-être servi à vous rapprocher, en tout cas. Mais alors, qu'est-ce qu'on sent quand on entre chez vous, Marc Véra, quand on entre dans cette maison,
simplement de la vérité, simplement de l'authenticité. Nous, on est près des clients. Vous savez, il vient de dire quelque chose là qui m'a terriblement touché. C'est la quatrième fois aujourd'hui, j'entends, on a fait le meilleur repas de notre vie.
Ouais.
Y compris un journaliste qui me l'a dit tout à l'heure. Parce que on a travaillé comme des fous. Sur les arômes, sur l'environnement, sur les plantes sauvages. Vous savez qu'on a un botaniste, on a 70 plantes sauvages. Ça n'existe, le reste, notre style de restaurant, je le dis au nom de mon équipe, ça n'existe nulle part ailleurs. Sa cuisine n'existe nulle part ailleurs. Mais nous, on a un avantage sur vous. C'est quand vous venez chez moi, c'est du sapin. D'accord?
Bon, alors c'est justement, à propos des herbes, il y a un mystère. Voilà, exactement. À propos
des champignons de Paris. Bravo. Ah, bravo pour vos champignons de Paris. Et bravo pour votre assiette. Bravo pour tout.
C'est alors formidable. parlez-nous un peu, Marc Véra, du calamant à grande fleur, parce que j'ai lu que c'était votre herbe préférée.
Oui.
Faites-nous rêver, parce que
je vais vous faire rêver, parce que le calamant à grande fleur, c'est une plante que j'ai découvert avec Laurent Gérard.
Oui. L'imitateur,
qui est un botaniste hors pair, qui est mon meilleur ami. Je viens d'ailleurs de fêter ses 50 ans avec toute la tribu
bien
parisienne.
Bien dans le micro, Marc Véra.
Avec toute la tribu parisienne. Et un jour, monsieur le directeur, faut que je vous raconte. Je suis à genoux, et lui connaît le calamant, moi je le connais pas à l'époque.
Ah oui.
Il me dit, regarde cette plante. Il m'a disséqué la plante, dans un esprit de féminité et de regard. Et c'est là que j'ai compris que quand il vous regardait au bout d'une minute, il pouvait vous imiter. Parce qu'il n'a regardé la plante comme personne. C'était incroyable. C'est une plante, on appelle ça une plante putassière. C'est-à-dire, en terminologique, vous savez, ça veut dire que c'est une plante qui a tellement d'arômes, elle n'est pas positionnée, elle n'a pas un goût défini, elle est charmeuse.
D'accord.
Donc elle a le goût d'œillet, de rose et de menthol, les trois, hein, définis les uns après les autres. C'est une plante qui pousse. Elle ne supporte que la moitié du soleil la journée. Donc elle pousse ou à l'ombre de la forêt, au levant, ou à l'ombre de la forêt, au couchant. Et c'est des arômes absolument merveilleux.
Mais comment est-ce que vous l'utilisez? Alors, justement, cette plante, ça doit être très compliqué à utiliser telle que vous la décrivez.
Et vous savez, je me pose toujours la question, est-ce qu'une carotte, c'est un fruit ou un légume?
Oui.
Ben oui, mais je peux pas vous répondre.
Oui. Alors, quand vous
parce que quand vous allez en Alsace, et quand vous allez dans les Vosges, ils font des... Vous êtes d'accord? Ils font plein de recettes, plein de gâteaux à base de carottes. Alors, posons-nous la bonne question. Mais en tous les cas, ce qui est merveilleux, ce que je peux vous dire, je vais vous faire une confidence. Moi, vous savez que je travaille avec Couplan, avec Dr Kayat, le cancérologue.
Oui.
Je travaille avec Serranini, j'ai rendez-vous avec Serranini tout à l'heure, un des plus grands chercheurs du monde. Ce qui est formidable, c'est que les lobbies nous racontent que des saloperies. Et quand on dit comment on va nourrir 12 milliards de gens sur la planète, eh ben vous savez quoi? On pourrait les nourrir demain matin avec la botanique sauvage tous les jours. Et ça, on le sait par des chercheurs. Mais comment vous... Ça les intéresse pas. Et regardez, pourquoi est-ce qu'on ramène pas la chaleur et l'énergie du désert chez nous? On ramène bien le gaz d'Ukraine. C'est qu'une histoire d'argent.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, on va terminer cette émission, Michael Ellis, en disant un petit mot de l'Afrique, puisque vous, comme vous le savez, nous sommes très écoutés, RFI est très écouté sur le continent africain. Il y a des restaurants africains dans le guide Michelin?
Il y a des restaurants avec la cuisine africaine dans le guide, bien sûr, que ce soit un nord-africain ou l'Afrique sous Sahel. On n'a pas encore arrivé sur le continent africain avec un guide.
Oui, c'est le seul continent que vous n'avez pas encore investi.
On a le seul continent. On n'est pas en Australie non plus.
Oui.
Donc, mais bon, cela dit, on est en train on est en période d'expansion, donc on peut pas évidemment être partout immédiatement. C'est surtout le problème de l'identification, recrutement, formation et déploiement des inspecteurs.
Oui, parce que les inspecteurs doivent être des inspecteurs locaux.
Absolument.
Ce ne sont pas des gens envoyés d'ailleurs.
Ça prend du temps, d'accord. Donc, mais on a fait depuis 5 ans maintenant, on a fait une dizaine de nouvelles guides entre les États-Unis, l'Amérique du Sud avec Rio, Sao Paulo, et 6 nouvelles villes en Asie, et donc on lance le 14 mars Taïwan et le 26 juin Guangzhou ou Canton en Chine.
Oui.
Donc, mais on est en train de regarder partout dans le monde où est-ce qu'il y a un intérêt gastronomique et où est-ce que vraiment il y a une culture de cuisine intéressante.
Oui.
Donc,
parce que Thierry Marx, qui était dans cette émission il y a quelques mois, nous expliquait que l'avenir de la cuisine à l'international, c'était l'Afrique.
Ah, il y a plein de choses très très intéressantes. Ils ont une culture aussi de culinaire qui est différente de celle que dans les pays de l'Europe, mais qui sont profondément intéressants pour le justement pour la nourriture, pour le, comme disait Marc Vera, au niveau le botanique, au niveau les légumes, les racines, il y a toute une richesse dans les produits africains. Toute bonne cuisine commence avec de bons produits. En Afrique, il y a un choix de prix produits absolument magnifiques.
Très bien, acceptons-en l'augure. Merci beaucoup à tous les trois, Michael Ellis, Marc Vera, Christopher Hache, d'être passés nous voir.
Longue vie au Michelin, on en a besoin.
Voilà, et bon appétit à tous. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain avec le scénariste Yves Sant et le dessinateur Steve Cusor pour une bande dessinée intitulée 5 branches de coton noir, paru chez Air Libre, et vous m'en direz des nouvelles.
Me voilà qui médite, entouré de mes plats, mes torchons, mes marmites. Illuminé et béat, ici c'est mon refuge, ma crèche, mon abreuvoir. Marche dans le déluge et le jour où il va falloir partir bouffer les pissenlits par la racine. Je voudrais que ce soit dans ma cuisine.